Le mystère qui est offert aujourd'hui à notre méditation est un mystère tout d'humilité. Tous les acteurs de la scène de cette purification brillent vraiment par une attitude pleine d'humilité. Et par là même, ils font remonter à Dieu une grande gloire, et pour nous, ils sont une source précieuse d'enseignement. Mais si quelque chose dans cette scène doit attirer davantage nos regards, c'est avant tout l'humilité de la Sainte Vierge. Et pour bien comprendre cette humilité de Notre-Dame, il faut repasser dans notre esprit, se remémorer ce qu'étaient les prescriptions de l'Ancien Testament. Et notamment ce qu'elles étaient pour une femme qui venait d'enfanter. En effet, après l'enfantement, une femme devait s'abstenir de tout acte religieux pendant 40 ou 60 jours selon le sexe de l'enfant qui était né. En devenant mère, la femme avait en quelque sorte contracté une excommunication légale, une impureté extérieure selon la loi, qui n'affectait en rien son âme, il n'y avait aucun péché bien entendu, mais le bon Dieu avait prévu que pour certains actes, eh bien, la participation aux actes du culte était interdite sans une purification préalable. Et du fait des phénomènes physiques qui ont lieu lors d'un accouchement, le bon Dieu avait interdit aux femmes de participer au culte pendant les 40 ou 60 jours qui, entre l'enfantement et la purification, rite de la loi de Moïse prévue pour qu'une femme puisse à nouveau reparticiper au culte divin. Le but du bon Dieu était de montrer le grand respect qu'il fallait avoir pour les choses du culte, pour les actions liturgiques. Dans un sens symbolique, ces impuretés extérieures, et elles étaient nombreuses dans l'Ancien Testament, représentaient toutes, d'une manière encore une fois symbolique, certains péchés. Dans le cas qui nous intéresse ici, le cas de l'accouchement, le péché qui est représenté, c'est le péché originel, la souillure du péché originel, qui est encore transmis par la semence de l'homme, à chaque enfant qui vient au jour. Et la femme était donc comme souillée par la malédiction qui pèse sur la naissance de chaque homme depuis le péché de nos premiers parents. La purification à laquelle elle devait se soumettre, purification qui elle aussi était toute extérieure, purement légale, représente elle aussi quelque chose, elle est un symbole d'autre chose, elle symbolise la grâce de Dieu par laquelle nous sommes purifiés de nos péchés. Au terme de ce temps de prescription, d'interdiction du culte, la femme devait offrir au temple un agneau en holocauste ainsi qu'une colombe ou une tourterelle. Et si jamais elle était trop pauvre, elle pouvait remplacer l'agneau par le petit d'une colombe ou d'une tourterelle. Et c'est ce qu'a fait Notre-Dame, sacrifice des pauvres. Nous savons par le texte sacré, par la Sainte Écriture, que Notre-Dame, la Sainte Famille, s'est soumise à ses prescriptions légales. Pourtant, à bien y réfléchir, Notre-Dame n'avait pas à s'y soumettre. Car en effet, le texte de la loi prévoit que la purification doit être subie par une femme qui a conçu selon l'ordre normal de la nature. Mais pour Notre-Dame, il n'en était pas ainsi. La Vierge Marie, en effet, nous a donné l'enfant Dieu par l'opération du Saint-Esprit. Et l'enfant Jésus n'a en rien lésé la virginité de Notre-Dame, ni avant, ni pendant, ni après la conception. Notre-Dame est restée parfaitement intègre, et donc elle n'avait pas à subir cette purification. De plus, Notre-Dame tenait à sa virginité, à tel point que la seule objection qu'elle a faite à l'ange lors de l'Annonciation, portée sur sa virginité. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. » Devait-elle alors, dans la purification, sacrifier l'honneur de sa virginité, passer aux yeux des hommes comme si elle l'avait perdue? Mais ce n'est pas tout. Notre-Dame n'est pas seule en cause. Cette cérémonie de la purification atteint aussi son Fils. C'est l'honneur de notre Seigneur qui est en jeu aussi dans un sens. Car par la purification, cela veut aussi dire que notre Seigneur a reçu d'une certaine manière le péché originel. Cela le laisse entendre en tout cas. Cela laisse entendre aussi qu'il a été pour sa mère une cause de souillure, ce qui n'est nullement le cas. Notre-Dame pouvait-elle traiter notre Seigneur comme une cause de souillure? Saint Bernard résume toutes ces objections que Notre-Dame pouvait se faire. Voici ses paroles. « Qu'ai-je besoin de purification? Pourquoi m'abstenir d'entrer dans le temple alors que je suis devenu le temple de Dieu, que j'ai enfanté celui qui n'est autre que le maître du temple? Quelle importance a cette pureté légale extérieure à moi qui ai enfanté celui qui est la source de la pureté ?» Fin de citation de Saint Bernard. Et il est vrai que Notre-Dame n'avait pas plus besoin de purification que notre Seigneur n'avait besoin de la circoncision. Et pourtant, c'est pour la même raison qui a poussé notre Seigneur à être circoncis, qui va pousser Notre-Dame à subir ce rite de la purification. Notre Seigneur a voulu passer pour l'un d'entre nous, se faire pécher pour nous dans un certain sens, sans pécher par lui-même, mais il a pris nos péchés sur lui, il a voulu être compté comme un des hommes pécheurs. Et bien Notre-Dame, c'est la même chose. Elle a voulu passer au milieu des femmes, pécheresses comme l'une d'entre elles. Mais il y a encore une autre raison, une deuxième raison. Notre Seigneur ne devait être révélé au monde que progressivement. Les bergers ont bien vu quelque chose des splendeurs de la naissance de notre Seigneur. Ils ont entendu les anges, ils ont compris les prophéties. Mais après la naissance, ils sont retournés à leur vie obscure. On n'a plus entendu parler d'eux. C'est la même chose pour les mages. Après leur offrande, ils rentrent chez eux. Ils ne sont pas retournés à Jérusalem publier les grandeurs, les miracles qu'ils avaient vus. Non, ils rentrent eux aussi dans le silence, dans l'obscurité. Ici, au temple, même règle de la divine providence. Ceux qui assistent à cette présentation de l'enfant Jésus, confesse hautement la venue du Sauveur Jésus. Mais peu après, le silence, l'obscurité vont à nouveau régner autour du divin enfant. Des merveilles de l'enfance de Jésus, il ne restera bientôt que quelques souvenirs qui serviront de point de repère. 30 ans plus tard, Saint Jean-Baptiste, le précurseur, annoncera la présence du Messie sur la terre, mais en termes encore bien énigmatiques. Et en définitive, c'est notre Seigneur lui-même qui devra se révéler. Par ses miracles, sa prédication, et surtout par sa mort et sa résurrection. Et pour qu'il soit connu dans toute sa grandeur comme vrai Dieu et vrai homme, il faudra en plus la venue de l'Esprit-Saint dans les âmes pour témoigner du Fils de Dieu. Ce qui importe aujourd'hui, ici, c'est que l'humilité de Notre-Dame, de la Vierge Marie, va servir admirablement ce plan de la Providence. La mission de Notre-Dame n'est pas de révéler les mystères de son Fils. Non, sa mission à elle est d'y être associée. Et elle y est préparée par le silence. Si elle cache sous le secret le mystère de sa conception et de sa naissance, ce n'est pas par égoïsme, pour garder son Fils pour elle seule. D'ailleurs, aujourd'hui, elle le confie au bras du vieillard Siméon. La mission de la Sainte Vierge n'est pas de parler. Et puis, comme dit l'Écriture, il est bon de cacher le secret du roi. Notre-Dame aimait aussi l'obéissance, et se trouvant devant un ordre de Dieu, elle s'empresse de l'exécuter. Mais agissant ainsi, combien est grande son humilité ? Bien plus grande que si elle avait mis en avant ses qualités de mère de Dieu. Elle est plus grande dans cette attitude de mère humiliée, portant des vêtements de deuil, que dans des vêtements de vierge. Oui, Notre-Dame est plus grande en se soumettant à la loi qu'en faisant falloir ses titres à une exemption. En rendant témoignage à la loi, elle rend gloire à Dieu. Et la Vierge Marie, dont le cœur brûle d'amour pour Dieu, ne cherche que la gloire de son Créateur, et c'est là toute sa vie. Quelle invitation pour nous aujourd'hui, invitation à suivre cet exemple d'humilité de Notre-Dame. Petite vertu, bien sûr, mais vertu ô combien nécessaire pour notre vie spirituelle, sans laquelle aucun socle, tout s'écroule. Il y a dans l'imitation de Jésus-Christ tout un chapitre qui vaut la peine d'être lu ici. Insensé celui qui met son espérance dans les hommes ou dans quelque créature que ce soit. N'ayez point de honte de servir les autres et de paraître pauvre en ce monde pour l'amour de Jésus-Christ. Ne vous appuyez point sur vous-même et ne vous reposez que sur Dieu seul. Faites ce qui est en vous et Dieu secondera votre bonne volonté. Ne vous confiez point en votre science ni dans l'habileté d'aucune créature, mais plutôt dans la grâce qui aide les humbles et qui humilie les présomptueux. Ne vous glorifiez point dans les richesses que vous pouvez avoir ni dans la puissance de vos amis, mais en Dieu qui donne tout et qui par-dessus tout désire encore se donner lui-même. Ne vous élevez point à cause de la force ou de la beauté de votre corps qu'une légère infirmité abat et flétrit. N'ayez point de complaisance en vous-même à cause de votre esprit ou de votre habileté, de peur de déplaire à Dieu, de qui tout vient et de qui vous avez tout reçu. Ne vous estimez pas meilleur que les autres, peut-être êtes-vous pire aux yeux de Dieu, qui sait ce qu'il y a dans le cœur. Ne vous enorgueillissez pas de vos bonnes œuvres, car les jugements de Dieu sont autres que ceux des hommes, et ce qui plaît aux hommes souvent lui déplaît. S'il y a quelque bien en vous, croyez qu'il y en a plus dans les autres, afin de conserver l'humilité. Vous ne hasardez rien à vous mettre au-dessous de tous, mais il vous serait très nuisible de vous préférer à un seul. Et l'auteur de l'imitation conclut ce petit chapitre. L'homme humble jouit d'une paix inaltérable, alors que la colère et l'envie troublent le cœur du superbe. Que Notre-Dame nous aide à entrer dans ce mystère d'humilité, c'est toute la grâce que nous lui demandons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.